Et ce soir, c'est Annabelle Grelier qui présente le journal. Bonsoir Annabelle.
Bonsoir. C'est bientôt la rentrée des classes, c'est la rentrée au travail pour les salariés. Une rentrée pleine d'incertitudes et d'inquiétudes avec une possible deuxième vague Covid. Le port du masque sera obligatoire dans les entreprises à partir du 1er septembre, a annoncé ce matin la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Saura-t-on un jour qui a commandité l'attentat à Beyrouth en 2005 qui avait causé la mort de l'ancien Premier ministre Rafik Hariri ? Aucune preuve n'a été faite de l'implication de la direction du Hezbollah, a déclaré aujourd'hui le tribunal spécial des Nations Unies. Un des quatre membres présumés du Hezbollah a été condamné pour conspiration. Retour sur l'audience. Il ne peut pas s'en empêcher. Les commentaires acerbes de Donald Trump sur Twitter sont devenus une habitude. Cette fois, c'est un spot télévisé républicain qui qualifie de sénile le candidat démocrate Joe Biden. La campagne présidentielle américaine promet d'être violente. Devant les obligations de porter le masque à l'extérieur, prises dans certaines villes comme Paris et Marseille, plusieurs médecins militent pour qu'ils deviennent obligatoires dans les espaces clos. Un collectif de professionnels de la santé a d'ailleurs saisi le Conseil d'État. Dans les entreprises, les protocoles sanitaires ne prendraient pas suffisamment en compte le risque de propagation du virus par aérosol. Entendez les fines gouttelettes en suspension dans l'air que l'on expire. Il faudra donc porter le masque dans les open space et les salles de réunion, Catherine Pétillon.
Des masques pour tout le monde. À partir du 1er septembre, le port du masque deviendra obligatoire partout dans les entreprises et associations, hormis dans les bureaux individuels. Autrement dit, il sera systématisé dans les salles de réunion, les couloirs, les vestiaires ou encore les open space. Le gouvernement suit ainsi la préconisation formulée il y a quelques jours par le Haut Conseil de la Santé publique, alors que dans le protocole actuel, le masque n'est imposé que lorsque la distanciation d'un mètre n'est pas respectée. Conséquence importante, ce sera à l'employeur de fournir des masques, expliqué sur France Info Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État en charge de la santé au travail.
Tout ce qui concerne la sécurité et la santé des salariés est à la charge des entreprises. Les entreprises, elles ont bien conscience qu'elles ont cette responsabilité. Et par ailleurs, vous le savez, je crois que le gouvernement est, depuis le début de la crise sanitaire, particulièrement attentif à permettre aux entreprises de passer ce cap difficile de la crise économique qui nous guette. Et je crois que cela doit être regardé comme un tout.
Une réponse aux réticences exprimées par certains chefs d'entreprise et à leurs inquiétudes quant au coût de ces équipements. Cette obligation satisfait les syndicats, Yvan Ricordo de la CFDT.
C'est une mesure qui est claire, qui vise à rassurer les salariés dans leur environnement professionnel. C'est important en termes de santé et de sécurité. Cela étant dit, ce qu'il faut maintenant, c'est que dans chaque entreprise, on s'empare de la question de l'organisation du travail. Il y a aussi les gestes barrières. Il y a la question du nettoyage des lieux de travail, la disposition du gel hydroalcoolique. Et donc, c'est des négociations qui doivent se dérouler désormais dans l'ensemble des lieux de travail.
Les services de l'État travaillent également à des mesures branche par branche en fonction des développements des foyers de contamination. Les premiers travaux commenceront dans les prochains jours avec la filière agroalimentaire et plus particulièrement les abattoirs.
À deux semaines de la rentrée scolaire, de lourdes incertitudes sanitaires planent encore sur le retour des élèves et des professeurs dans les classes. Des incertitudes avec lesquelles il va falloir sans doute s'habituer à vivre. Mais tout de même, de là à faire comme si rien n'allait changer, c'est dur à croire. En tout cas, du côté du ministère de l'Éducation nationale, on s'agite, on temporise. Le ministre Jean-Michel Blanquer annonce une conférence de rentrée le 26 août prochain. Les syndicats, eux, sont déjà sur le pied de guerre, Damien Mestre.
Oui, car toute la difficulté du moment, c'est que la rentrée se prépare à partir d'un document de travail qui date de la mi-juillet. Or, vous le savez, la situation sanitaire a évolué depuis et tout le monde s'attend donc à ce que le protocole soit durci dans les tout prochains jours. Du côté du ministère, on l'assure, la règle, c'est que tant que les élèves ne sont pas scolarisés dans une zone cluster, eh bien, ils doivent pouvoir revenir à l'école. Mais dans quelles conditions? C'est là que ça devient plus flou. Faudra-t-il porter le masque partout? Les cantines pourront-elles ouvrir normalement? Les classes devront-elles être dédoublées? Et si oui, avec quels moyens? Bref, des interrogations et une seule certitude, tout sera décidé au cas par cas en fonction de chaque établissement et en tenant compte des toutes dernières remontées sanitaires. Mais vous l'avez dit, les syndicats commencent à s'impatienter. Le SNUIPP, principal syndicat enseignant, demande aujourd'hui un report d'une semaine de la rentrée. Du côté des parents d'élèves, le coprésident de la FCPE, Rodrigo Arenas, réclame lui un plan d'urgence.
Tant qu'il n'y a pas de vaccin, la seule façon de se protéger, ce sont les gestes barrières et qui passent par des mesures, c'est-à-dire la mise à disposition des masques gratuitement indépendamment des revenus des familles. Ça veut dire pouvoir se laver les mains quand on en a besoin et pas seulement quand le règlement l'autorise, et aller sur des classes à petits effectifs pour permettre la distanciation sanitaire, car elle n'est pas possible dans beaucoup d'écoles et beaucoup de classes de notre pays. Voilà ce que ça veut dire. Donc ça passe évidemment par un plan massif de recrutement, ça passe par d'équipement et ça passe par un budget d'urgence qui soit offensif. Et nous retournons dans la situation d'urgence alors que nous n'y étions plus.
Prochaine étape donc au plus tard, vous l'avez dit, le 26 août, avec la conférence de rentrée du ministre Jean-Michel Blanquer.
Au Puy du Fou, les deux prochains spectacles n'ont pas obtenu de dérogation de la part de la préfecture pour aller au-delà des 5000 spectateurs. La jauge est donc revue à la baisse. Rappelons que le 15 août dernier, 9000 spectateurs avaient pu assister au spectacle, ce qui n'avait pas manqué de créer la polémique et avait suscité la colère d'une partie du monde de la culture, lourdement pénalisée par la crise de la Covid. Pas de dérogation accordée cette fois. Selon le préfet, la situation sanitaire en Vendée se serait détériorée depuis la mi-août. Coupable de conspiration, le verdict du tribunal spécial des Nations Unies pour le Liban est tombé à la mi-journée. 15 ans après l'attentat à la camionnette piégée qui avait coûté la vie à l'ancien premier ministre libanais Rafik Hariri. Attentat à Beyrouth qui avait fait également 21 victimes. Verdict qui vise l'un des quatre membres présumés du Hezbollah. Le tribunal spécial qui siège dans la banlieue de La Haye, aux Pays-Bas, a estimé en revanche qu'il ne disposait pas de preuves de la responsabilité de trois autres accusés qui ont été acquittés. Le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas de preuve non plus d'une implication de la direction du Hezbollah ni de la Syrie dans cet attentat. Aurélien Colli.
15 ans d'attente, une enquête internationale, un tribunal spécial de l'ONU, 300 témoins et des millions de dollars dépensés. Mais au final, une seule condamnation, Salim Hayash, le seul dont le tribunal est absolument sûr qu'il a participé à l'attentat. Manque de preuves pour trois autres individus, poursuivis mais acquittés. Absence de preuves aussi pour établir un lien direct entre l'attentat et le gouvernement syrien ou la direction du Hezbollah, le puissant mouvement chiite libanais, allié de Damas mais aussi de Téhéran. Le tribunal international souligne quand même que la Syrie et le Hezbollah avaient des motifs d'éliminer Rafik Hariri, devenu à l'époque le chef de file de l'opposition à la présence syrienne au Liban. Il se dit aussi convaincu que le seul condamné est un membre actif du Hezbollah et pas un simple partisan. Le Hezbollah n'a pas réagi au verdict. Comme le régime syrien, il a toujours démenti son implication dans cet assassinat. Il n'a d'ailleurs jamais reconnu le tribunal spécial et l'enquête internationale qualifiée de politisée. Vendredi, son chef s'est contenté d'indiquer qu'il s'attendait à des condamnations injustes d'hommes innocents. Présent au siège du tribunal, à La Haye, Saad Hariri, qui a repris lui le flambeau de son père pour le leadership de la communauté sunnite libanaise, a accepté le verdict. Un geste d'apaisement dans le contexte de tensions politiques actuelles au Liban, de polarisation aussi entre partis confessionnels.
Un coup d'État est-il en train de se préparer au Mali? La situation est en tout cas inquiétante depuis hier. Des militaires maliens ont pris ce matin le contrôle d'une garnison proche de Bamako, suscitant l'inquiétude de Washington et des voisins du Mali quant à un éventuel renversement du président Ibrahim Boubacar Keïta, déjà confronté depuis deux mois à une contestation sans précédent. Le Mali connaît depuis juin des manifestations d'envergure contre le président, donc jugé par ses opposants incapable de rétablir la sécurité dans le pays et de remédier à la corruption. L'ambassade de France à Bamako recommande à ses ressortissants de rester chez eux. Aux États-Unis, deuxième soirée de la convention nationale du Parti démocrate qui jeudi donnera l'investiture à Joe Biden pour affronter Donald Trump le 3 novembre prochain. Au programme ce soir, les discours de l'ancien président Bill Clinton et de la figure montante du parti, Alexandria Ocasio-Cortez. Convention virtuelle en raison de l'épidémie de coronavirus et diffusée donc sur les réseaux sociaux et les chaînes de télévision. Et convention évidemment suivie et commentée par l'actuel locataire de la Maison Blanche qui occupe le terrain avant la convention républicaine prévue la semaine prochaine. À Washington, Grégory Phillips.
Hier après-midi, il était dans le Wisconsin, l'État où devait se dérouler cette convention démocrate. Aujourd'hui, Trump est en Iowa pour constater les dégâts d'une tempête qui a frappé l'État la semaine dernière. Puis ce soir en Arizona pour parler immigration et mur de séparation à la frontière mexicaine. Donald Trump laboure le terrain. Un autre déplacement présidentiel est prévu après-demain à Scranton, Pennsylvanie, dans la ville natale de Joe Biden, le jour où l'ancien vice-président est censé accepter l'investiture de son parti. Trump se démultiplie donc donc au moment où toutes les caméras sont tournées vers la convention démocrate, qu'il a évidemment suivi hier. Ses commentaires sur la prestation de l'ancienne première dame Michelle Obama sont acerbes. Elle a prononcé un discours de division, dit-il aujourd'hui, et elle ne devrait pas oublier que je ne serai pas à la Maison Blanche sans l'œuvre de son mari, Barack Obama. Donald Trump, qui vante aussi son bilan économique, qui critique la précédente administration pour sa gestion de l'épidémie de grippe H1N1 en 2009, 12 500 morts à l'époque contre plus de 170 000 décès liés au coronavirus cette année. Ses équipes de campagne enfin viennent de dévoiler un nouveau spot télévisé particulièrement agressif à l'égard de Biden, accusant à demi-mot le candidat démocrate de 77 ans d'être carrément sénile. La campagne va durer encore 2 mois et demi et elle sera violente.
Le capitaine du bateau japonais qui a déclenché une marée noire à l'île Maurice après s'être échoué fin juillet sur un récif a été arrêté, ainsi que son adjoint. L'enquête et les interrogatoires des autres membres de l'équipage se poursuivent. Que faire face à la montée de l'antisémitisme? L'éducation est sans doute l'une des meilleures réponses. En Allemagne, le parti d'Angela Merkel, la CDU, le parti chrétien démocrate, veut encourager les visites de classe dans les camps de concentration, Nathalie Versieux.
Chaque élève devrait avoir visité au moins une fois dans sa scolarité un camp de concentration. C'est du moins ce qu'estime la direction du Parti chrétien démocrate dans un document consacré au regain de l'antisémitisme en Allemagne. L'État fédéral et les Länder devraient se partager les coûts de ces sorties scolaires, toujours selon la direction du parti, qui a vu de ses propres yeux ce dont l'être humain est capable, qui a senti sur les lieux mêmes la souffrance de millions de personnes, comprend où mène le racisme et l'antisémitisme, souligne le document inquiet de la lente disparition des derniers survivants de l'Holocauste. Nombre d'entre eux se rendaient régulièrement dans les écoles à la rencontre des élèves pour les inciter à ne jamais oublier les crimes nazis. L'Allemagne connaît depuis des années un regain de l'antisémitisme. Une tentative d'attentat contre une synagogue de Halle qui avait échoué de justesse parce que la porte en bois de l'édifice avait résisté aux assauts du terroriste, avait créé une onde de choc dans le pays voici un an.
L'Australie s'est assurée d'obtenir un vaccin prometteur contre le coronavirus, a annoncé aujourd'hui son premier ministre, assurant que le pays le fabriquerait et le distribuerait gratuitement à sa population. Selon le premier ministre australien Scott Morrison, l'Australie a passé un accord avec le groupe pharmaceutique suédo-britannique AstraZeneca concernant le vaccin qu'il est en train de développer avec l'université d'Oxford au Royaume-Uni. À noter donc que le vaccin d'Oxford est un des 5 vaccins actuellement en phase 3 des essais. Les chercheurs espèrent avoir des résultats d'ici la fin de l'année. La météo, le temps demain sera dominé par une nouvelle dégradation pluvieuse qui touchera d'abord la Bretagne dans la nuit, puis le nord du pays. Cette activité pluvieuse s'étendra en cours de matinée des Pays de la Loire à la Normandie. Les pluies s'atténueront progressivement en fin de journée. À noter aussi le renforcement du vent sur les littoraux bretons et normands, avec des rafales atteignant les 80 km/h sur les côtes. Sur l'est du pays, le ciel se voilera à l'avant de la perturbation, mais le temps restera sec. En revanche, le soleil dominera largement sur la moitié sud. Les températures minimales seront comprises entre 13 et 18 degrés sur la moitié nord, 15 et 21 sur la moitié sud, et les maximales 22 et 29 degrés toujours au nord et au sud. Eh bien, elles repartiront à la hausse avec 28 à 35 degrés et jusqu'à 36-37 degrés dans le sud-ouest.